France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Vers le milieu des années 2010, l'économie de l'information a connu au niveau mondial une mutation inédite dont on n'a pas encore pris toute la mesure. Avec l'assomption des réseaux sociaux, les entreprises de presse écrite, de radio et de télévision qui jusque-là tiraient l'essentiel de leurs revenus de la publicité ont dû revoir leur modèle économique. Ils se sont mis à dépendre financièrement des abonnements numériques, c'est-à-dire de leurs lecteurs et de leurs audiences, et des émotions immédiates que suscitaient leurs articles et leurs reportages. En 2017, une étude réalisée par le Pew Research Center sur Facebook indiquait par exemple que les messages exprimant un désaccord indigné suscitaient presque deux fois plus de réactions que les autres contenus. De MeToo à Occupy Wall Street, de Black Lives Matter aux différents populismes, ce changement n'a pas seulement polarisé le débat public, il l'a profondément transformé. Comment fonctionnent les émotions collectives qui nous gouvernent aujourd'hui? Selon quelles règles? Quels pièges tendent-elles à l'opinion? C'est ce qu'Eva Illouz tente d'analyser dans son nouveau livre « Explosive modernité, malaise dans la vie intérieure » qui sort en ce moment aux éditions Gallimard. Eva Illouz, bonjour.
Bonjour Marc Weitzmann.
Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez reçu en 2024 le prix Abby Warburg pour l'ensemble de votre œuvre qui est composée d'une quinzaine d'ouvrages traduits dans 18 langues. Parmi ces ouvrages, on peut compter Les sentiments du capitalisme, Hard Romance, La fin de l'amour, Le capital sexuel. C'est-à-dire que vous étudiez les émotions depuis une vingtaine d'années et plus exactement la facette collective des émotions. Et ce livre est à la fois la suite et un peu un pas de côté par rapport au livre précédent, puisque vous partez de la question du malaise dans la civilisation qu'a étudié Freud en son temps, et vous démarquez de Freud, vous le dites au début, dans l'introduction du livre, Malaise dans la civilisation, le livre de Freud est peut-être la première tentative de comprendre une expérience collective diffuse et insaisissable au-delà des termes familiers du déclin. Mais aujourd'hui, vous continuez un peu cette démarche, mais en partant non plus des pulsions, mais des émotions.
Oui, exactement. Alors dans ce livre qui est resté célèbre de Freud, qui date de 1939, il discutait l'impossibilité d'atteindre le bonheur, parce qu'il y avait, selon lui, une opposition fondamentale entre culture ou civilisation et les pulsions. Pulsions d'agressivité, pulsions sexuelles. Et il mettait la culpabilité au centre de ce malheur. La culpabilité, donc, qui provenait du fait que la civilisation faisait sur nous une demande de répression de plus en plus grande de nos instincts, notamment l'instinct d'agressivité. Et donc, Freud crée une sorte d'antagonisme entre la psyché et la civilisation, ou la société, ou la culture. C'est pas important comment on l'appelle. Il projetait, je dirais, sur la société, le psychisme. Or, une sociologue fait une démarche un peu différente. Elle voit le besoin d'appartenir à un groupe comme absolument premier et fondamental dans la psyché. C'est Durkheim, en fait, qui, bien avant ce livre, en 1897, avait le premier marqué, si vous voulez, le territoire de la sociologie, en proposant que le suicide n'était pas une pathologie mentale, mais était lié à des catégories sociales, et plus fondamentalement, qu'il était lié au fait de ne pas appartenir à un groupe comme on le devrait. Donc, pensez par exemple, donc ce que je dis, c'est que non seulement l'appartenance à un groupe est première, mais aussi que ce groupe, ses normes, ses idéologies s'inscrivent en nous très tôt. Pensez par exemple à la honte d'un enfant, à la rougeur qui envahit son visage, au sentiment de vouloir disparaître. Elle apparaît très tôt, cette honte, parce qu'on a intériorisé en quelque sorte les normes de notre groupe.
Vous dites les émotions poursuivent le travail de la société en nous. Ni erreur, ni vérité, elles sont des moments stylisés de l'existence.
Elles sont des moments stylisés de l'existence, puisqu'il s'agit précisément dans une émotion de signaler à nous-mêmes et aux autres qui on est dans une interaction donnée. Si vous m'offensez et que je réponds par de l'indifférence ou par un rire ou en vous donnant un coup de poing sur le visage, j'ai, en quelque sorte, stylisé ce que je suis. C'est dans ce sens-là qu'elles sont des moments stylisés de l'existence.
Alors, un des paradoxes, c'est que les émotions qu'on est censé éprouver de manière individuelle, la culture moderne, vous dites, flatte si bien notre illusion de singularité que nous en venons à oublier que nos expériences les plus intimes ne nous appartiennent pas entièrement. Et c'est tout ce désir d'appartenance et l'aspect collectif de ces émotions, je viens de le dire, est particulièrement prégnant depuis quelques années, depuis en gros une dizaine d'années, depuis que les réseaux sociaux structurent le débat public. Et votre livre essaie de faire le tour d'un certain nombre d'émotions et découpé en plusieurs chapitres, 9 exactement. On peut pas toutes les faire, mais on va se concentrer sur celles qui me semblent être le plus en phase avec les questions centrales de l'époque. La première de ces émotions est la question de l'espoir. Et vous dites, c'est le premier chapitre, vous dites que les Lumières ont sécularisé l'espérance chrétienne, ont institutionnalisé l'espoir à grande échelle. Avant les Lumières, les paysans qui se révoltaient contre les seigneurs locaux n'avaient pour la plupart aucune vision d'un ordre politique alternatif alimenté par l'espoir. À partir des Lumières, l'espoir devient un facteur de mobilisation politique, dessine un avenir potentiel. On assiste donc à une rupture radicale avec la notion de péché originel. Et cet espoir, aujourd'hui, est entièrement double. Enfin, toutes les émotions que vous explorez dans le livre, d'ailleurs, se caractérisent par une sorte de dualité.
Oui, alors c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, par rapport à des philosophes comme Martha Nussbaum ou beaucoup de psychologues qui s'attachent à faire une distinction entre ce qu'on appelle des émotions positives ou des émotions négatives. J'essaye de montrer, à l'aide d'analyses aussi de romans et de littérature, oui, les émotions sont indécidables, que leur valeur morale est indécidable. Mmh. Et c'est un peu comme ça que j'ai construit chaque chapitre. Donc si on parle de l'espoir, vous avez raison, je vois dans l'espoir l'émotion qui est consubstantielle à la naissance de l'individu moderne. Pourquoi ? Parce que, contrairement à l'espérance chrétienne, c'est un espoir pour améliorer notre vie ici et maintenant. Ce n'est pas quelque chose qu'on projette dans l'au-delà. L'espoir, en fait, fait partie aussi de cette catégorie qui est très moderne, qui s'appelle un programme de vie. Avoir un programme de vie, c'est avoir, en fait, des espoirs différents concernant notre mobilité sociale, la personne avec qui on va vivre. Donc, la perfectibilité des êtres humains, c'est l'idée essentielle de la modernité, mais c'est une idée qui s'est transposée aussi au niveau individuel, parce que chaque individu a l'espoir d'améliorer sa vie. Et le projet de l'égalité, il faut le dire, le projet de l'égalité s'est accompagné en fait d'un projet économique et social qui était fondé sur cet espoir. C'est aussi ce qu'on appelle la méritocratie, qui est l'idéologie fondamentale des sociétés démocratiques. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que cet espoir peut aussi tourner à ce que j'appellerais un attentisme vide. Et là, je prends pour exemple la très grande nouvelle de Henry James, The Beast in the Jungle, La Bête dans la jungle. Il s'agit d'une histoire de John Marcher qui attend, on sait de lui qu'il attend qu'un événement extraordinaire lui arrive dans sa vie. Il connaît May Bertram, elle l'accompagne dans sa vie, mais il ne lui avoue jamais, il ne lui dit jamais, il n'est jamais conscient de son amour, ni de l'amour qu'elle lui porte. May Bertram meurt, et c'est au moment où elle meurt qu'il va comprendre que la bête qui, dans la jungle qu'il attendait, surgit tout à coup, mais ce n'est pas cet événement extraordinaire qu'il attendait. Ce qu'il comprend, c'est qu'il a en fait raté sa vie et qu'il est passé à côté de cette femme qu'il aimait. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'espoir est à la fois si vous voulez, un moteur à la fois économique et psychique, est devenu un moteur économique et psychique, économique parce que c'est ce qui nous fait constamment nous engager dans des actions économiques pour améliorer notre sort. Mais nous sommes embarqués dans des programmes d'amélioration de nous-mêmes qui, au fond, nous laissent souvent dans la même situation. Et donc, l'espoir est devenu une machine psychique et économique qui tourne à vide. C'est le premier chapitre de mon livre.
Oui, je voudrais rester une seconde sur cette dichotomie à partir à partir de la Révolution française, l'idée d'avenir et l'idée de pouvoir façonner sa vie va alimenter à la fois les premiers romantiques comme Shelley, Byron, William Blake. Vous parlez aussi de la fondation des États-Unis. L'espoir repensé par les Lumières est intégré à une idéologie tournée vers le futur et ça alimente bien sûr les doctrines socialistes, démocratiques, les printemps des peuples et aussi le nationalisme dont vous dites qu'il fut l'une des idéologies de l'espoir les plus puissantes du 19e siècle. La Hatikva, l'hymne israélien, le mot Hatikva signifie espérance. Et en même temps, vous développez effectivement ce que vous appelez l'espoir de basse intensité, c'est-à-dire que il faut bien qu'à un moment donné la société libérale se mette en place, et donc l'espoir pour chacun devient une sorte de méliorisme, une façon pour chacun d'améliorer sa vie dans la mesure où c'est possible, avec cet inconvénient que les attentes sont toujours supérieures, ou le plus souvent supérieures aux résultats. Vous évoquez l'espoir, vous dites l'espoir encourage des attentes qui à leur tour suscitent un désir de changement et d'action, et d'où le fameux paradoxe de Tocqueville, selon lequel plus une situation s'améliore, plus l'écart avec la situation idéale est ressenti comme intolérable, et plus les attentes grandissent. C'est-à-dire que l'espoir entretient avec le désespoir et avec l'insatisfaction une sorte de dialectique compliquée.
Oui,
dans la vie sociale.
Oui, vous avez entièrement raison. Alors, je développe aussi la notion d'institution de rêve. On a souvent caractérisé la modernité par la rationalité, ce qui n'est pas faux, hein, depuis Weber. Mais la modernité, et ça, c'est Flaubert qui l'a très bien compris, c'est pour ça que Flaubert et Madame Bovary m'aident beaucoup dans cette analyse. La modernité, c'est aussi des institutions du rêve. Du rêve, j'ai envie d'ajouter, d'un rêve vide qui tourne à vide, encore une fois. Pensez à Hollywood, ou pensez à la publicité, pensez même à toute la culture de la consommation. Ce sont des institutions dont le but est de réveiller en nous une sorte de rêve éveillé. Et donc, il y a une sociologie du rêve éveillé à faire. Ce rêve éveillé, c'est celui qui veut ou qui espère nous faire vivre ce que le grand psychanalyste britannique Adam Phillips appelle la vie non vécue. C'est-à-dire que nous sommes hantés par le fantôme de la vie qu'on aurait pu vivre, mais qu'on n'a pas vécue. Et cette vie qu'on n'a pas vécue, ce sont des institutions de rêve qui la crée. Je devrais rajouter aussi à ces institutions de rêve toute la culture du développement personnel qui nous intime une santé psychique, enfin qui nous intime de nous améliorer et qui nous fait miroiter la promesse d'une santé psychique, d'une positivité et d'un optimisme dont on manque aujourd'hui.
Oui, Emma Bovary est probablement un des premiers romans à explorer cette dimension de la déception et de la distance entre les rêves et la réalité. Vous l'analysez de façon assez précise, hein. Vous rappelez que la tragédie d'Emma Bovary, c'est qu'elle est entourée de gens comme son mari, Charles Bovary, ou le fameux pharmacien Homais, qui se distinguent par une forme de platitude avancée, c'est-à-dire que la modernité encourage une forme de rationalité qui devient omniprésente et une forme de platitude et de lieu commun qui devient omniprésente dans la vie d'Emma Bovary. Mais le paradoxe d'Emma, c'est qu'à la fois, elle cherche la vraie vie, elle cherche une vie intérieure riche, elle se pense exceptionnelle, mais elle ne tombe que sur ses propres clichés. Plus elle essaye de s'échapper, plus elle retombe en quelque sorte dans la prison intérieure de ses clichés.
Oui, je dirais qu'il y a une différence que je fais et que Flaubert fait entre la platitude de Charles. La platitude de Charles est pleine des normes et des idées reçues de son milieu. Madame Bovary, c'est une platitude qui est différente, parce qu'elle est faite des clichés de la littérature sentimentale à bon marché, qui était devenue courante au XIXe siècle. Et ces clichés sentimentaux nous donnent la promesse d'une vie exaltante. Et donc, une vie qui nous sortirait en quelque sorte de notre vie. Et ça aussi, c'est un cliché. Et donc, c'est un cliché qui ne se connaît pas comme cliché. C'est un cliché qui se croit être au-dessus des autres clichés. Et c'est peut-être pour ça que Flaubert est particulièrement cruel avec cette héroïne, parce que il veut pas être pris au piège de cette promesse, de cette fausse promesse de transgression et d'exaltation. Et la déception est devenue, en quelque sorte, imbriquée dans le tissu de nos vies quotidiennes. C'est nos amours qui nous ont rejetés, c'est les candidatures qu'on a envoyées et à laquelle on n'a pas reçu de réponse, auxquelles on n'a pas reçu de réponse. Ce sont nos enfants qui sont un peu moins que ce qu'on voulait. En fait, il y a toujours une source de déception, précisément parce que il y a des modèles de vie, alors que j'appelle esthétisés, qui sont aussi visibles. Et là, je parle de l'esthétisation de la vie quotidienne, qui est une notion importante pour comprendre ce dont je parle. L'esthétique ou l'esthétisation, le fait d'esthétiser un événement, c'est de vouloir y voir de l'harmonie et d'y voir une sorte de suprasignification, quelque chose qui donnerait une signification globale à ce qu'on vit. Or, la vie quotidienne est faite de gestes insignifiants, elle est souvent dissonante et elle n'a pas de signification. Donc, on vit d'un côté avec des modèles esthétiques de la vie quotidienne et de l'autre côté, on vit avec une vie qui met en défaut constamment ces modèles. Mais, et c'est aussi un des aspects du livre, c'est de montrer que beaucoup de ces sentiments sont ce que j'appellerais productifs. C'est-à-dire qu'ils génèrent beaucoup d'actions sociales. On ne se contente pas d'être déçu, on est déçu et on essaye d'améliorer sa déception. C'est en ça qu'on fait constamment un travail sur nous-mêmes, un travail qui peut, encore une fois, tourner à vide, pour correspondre à l'image qu'on voudrait de cette vie qu'on n'a pas.
Mmh. Mais que d'autres peuvent avoir. Il y a de la déception à l'envie. Il y a souvent qu'un pas. Il y a une forme de rivalité inconsciente, plus ou moins inconsciente avec les autres. Si nous, on n'a pas la vie qu'on rêve, d'autres semblent l'avoir, en tout cas. Et c'est l'autre émotion que vous analysez, c'est l'envie que vous définissez. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est Bernard de Mandeville qui l'a défini comme une passion de l'égalité.
Alors, non, c'est pas de Bernard de Mandeville.
Non, c'est vous.
Non, ça serait plutôt Tocqueville.
Oui, c'est Tocqueville.
Alors, l'envie, oui, c'est encore, me semble-t-il, une émotion absolument fondamentale à nos sociétés. L'envie, c'est pas seulement vouloir quelque chose que quelqu'un a, mais c'est aussi vouloir que ce quelqu'un n'ait pas cette chose. C'est pas exactement la même chose. Et ce que j'analyse dans ce chapitre, c'est le passage qui se fait de l'ère chrétienne où l'envie est considérée comme un péché mortel, aux Lumières écossaises, pour qui l'envie est au contraire, ça c'est Bernard de Mandeville par contre,
oui.
Pour qui l'envie est positif pour la société, puisque c'est un moteur d'action économique. C'est ce qui fait qu'on va vouloir envie de travailler. Alors ce qui m'a intéressé tout particulièrement dans le phénomène de l'envie, c'est l'envie qui a émergé, me semble-t-il, dans les 20 dernières années, vis-à-vis des minorités. En tant que membre de majorité. Et ça a été évidemment le cas, par exemple, des Allemands ou des Autrichiens qui enviait les minorités juives qui avaient réussi, disons, à être représentées de façon disproportionnée à leur nombre parmi les intellectuels, les médecins et les avocats. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Les Américains blancs, par exemple, qui votent pour Trump, ont souvent le sentiment d'avoir été dépassés par les Noirs ou par les femmes. C'est donc une envie qui est très spécifique, qui n'est pas dirigée contre les puissants. C'est une envie qui est dirigée contre ceux qu'on croyait être inférieurs à nous. Et je dirais qu'il y a aussi des études passionnantes qui ont montré l'importance de la positionnalité. J'explique. La positionnalité. Et on montre par exemple que les gens préfèrent gagner 20 000 dollars si ils savent que les autres gagnent 15 000 dollars. Ils préfèrent gagner 20 000 dollars à 25 000 dollars si les autres gagnent 30 000 dollars. Donc, l'envie, si vous voulez, crée une forme de misère sociale qui est très particulière. Ce n'est pas la misère de ceux qui n'ont rien, qui existe bien entendu, mais c'est une misère, je dirais, de celle qui est des classes moyennes, c'est la misère que Bourdieu appelait la misère de position, où on est constamment face au fait qu'on a beaucoup moins que ce qu'on devrait ou voudrait avoir.
C'est le slogan « parce que je le vaux bien ». Ce camp publicitaire
oui.
qui résonne avec ça. Il y avait aussi un fait divers il y a quelques années, l'histoire de Jacques Sion qui se faisait passer pour un playboy sur Internet. Il avait mis une photo, de lui qui ressemblant, se faisant passer pour le cow-boy de Marlboro en quelque sorte. Et plusieurs femmes sont venues le voir effectivement, les yeux bandés comme il leur demandait, sans voir à quoi il ressemblait. Et il a eu comme ça de vraies relations avec des femmes qui savaient au fond d'elles-mêmes qu'elles n'étaient pas, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette rencontre, mais elles estimaient qu'elles avaient droit à rencontrer quelqu'un qui ressemblait à un mannequin. Il y a cette idée d'une image de soi qui correspond au rêve, quoi. Alors, vous n'en parlez pas dans votre livre, mais dans votre livre, vous abordez d'autres sujets. Cette envie, cette déception, finissent par débouler sur une forme de colère. Et c'est le chapitre que vous appelez l'énigme de la colère. Vous partez de très loin, puisque vous rappelez que dans l'Iliade, vous partez d'Achille, en fait, de la colère d'Achille et de ce que les Grecs anciens appelaient le thumos, principe de vie associé à la respiration, au sang, à la vitalité, émotion masculine faite d'énergie brute et de puissance. Et ce qui était particulièrement forte dans les sociétés d'honneur, qui existent encore d'ailleurs, et qui justifiait la quête de vengeance que lorsque l'honneur d'un homme était bafoué. Cette colère, on la voit revenir aujourd'hui autrement, en quelque sorte, qu'à travers le modèle héroïque d'Achille.
Alors, oui, tout à fait. Alors, il ne s'agit plus de la colère d'Achille qui était une façon d'exalter la masculinité. Il s'agit d'une autre colère. Et je dirais que si de Tocqueville avait été un des premiers à comprendre les effets de la démocratie sur la vie psychique par l'envie et par l'envie que l'égalité des conditions crée, j'ajouterais à cette analyse tocquevillienne que la colère n'est pas moins consubstantielle à la démocratie. Parce que la démocratie, c'est au fond une utopie d'égalité qui ne peut jamais véritablement se réaliser. Parce que, comme le disait Marx, et l'analyse marxiste est toujours valable, l'égalité de droit n'aboutit jamais à l'égalité de fait. Et je dirais que dans les 30 dernières années, c'est encore plus le cas. C'est-à-dire qu'on a eu deux processus, si vous voulez, qui sont allés ensemble. Il y a eu une augmentation, une intensification des revendications d'égalité, une expansion des droits démocratiques d'un autre côté. Et de l'autre côté, on a eu une contraction La distribution des richesses. On est passé d'une économie, je cite la terminologie de prix Nobel d'économie d'Aaron Acemoglu, qui distingue deux modèles, disons, d'institutions économiques. Une qu'il appelle extractive, c'est où les richesses sont dans les mains d'une petite élite, et une économie inclusive, où la richesse se distribue beaucoup plus. Nous sommes passés d'une économie qui était beaucoup plus inclusive à une économie extractive. Or, si vous êtes né dans une économie extractive, vous pouvez l'accepter. Mais comme on a fait ce passage en tant que tel est très mal vécu. On vit très mal le changement de conditions. Donc je dirais que dans la démocratie, il y a un fond utopique qui ne peut jamais être satisfait, et qu'il est possible que la démocratie soit une grande machine à produire de la colère. J'explore dans le chapitre aussi, sur la base du roman de von Kleist, Michael Kohlhaas, un roman de 1810, qui est un roman passionnant, puisque Michael Kohlhaas est celui qui va vouloir lutter contre l'injustice. Et il va lutter contre l'injustice face à un système qui est ligué contre lui, face à un système où tout le monde se protège, où il n'a pas de pouvoir contre les puissants, finalement. Et Michel Kohlhaas va progressivement se déshumaniser parce que sa quête de la justice va devenir tellement obsessionnelle et tellement forte qu'elle va effacer l'humanité même, son humanité à lui et l'humanité des gens qui l'accompagnent. Et la scène finale du roman où on restitue à Michel Kohlhaas ses chevaux qui avaient été quasiment volés. Et qui était la source de sa colère au départ. Et quand Michel Kohlhaas monte sur l'échafaud et sourit parce que justice lui a été rendue, ce sourire est en quelque sorte glaçant.
Oui, c'est vous dites à un moment donné d'ailleurs à propos de Michael Kohlhaas que la colère du personnage va contre la logique narrative du livre. C'est-à-dire que et ça c'est une idée assez intéressante parce qu'effectivement il y a quelque chose aussi dans le phénomène même de ce qu'on appelle le populisme qui va contre, qui s'accommode très bien des réseaux sociaux, mais qui va contre toute logique narrative. C'est-à-dire que c'est une succession de manifestations de colère dont on sent bien qu'elles sont contradictoires. Quelquefois, elles se contredisent elles-mêmes, elles se contredisent mutuellement aussi, et on sent qu'il y a une forme de cohérence, mais qui échappe à tout discours constitué.
Alors, ce qui est de particulier dans les émotions, c'est pour ça qu'elles sont souvent dangereuses en politique, même si elles ont toujours fait partie de la politique. Il ne faudrait pas donner l'impression que les émotions qui a eu un âge d'or de la politique, oui. Qui était gouverné par la rationalité, les émotions ont toujours été là. Je dirais que les émotions sont destructrices dans le champ politique parce que, premièrement, elles prennent appui dans nos identités. Si je dis que les blancs sont défavorisés par rapport aux noirs, je vais créer de l'envie et du ressentiment qui va être fondée sur une identité ethnique qui n'existait pas forcément avant. Mais le fait même d'ancrer l'envie et le ressentiment sur l'identité va rendre l'envie et le ressentiment beaucoup plus fort. Deuxièmement, les émotions sont notoirement indifférentes aux faits et à la vérité. Je dirais que ce même blanc dont je parlais, qui a du ressentiment vis-à-vis des noirs dont il pense qu'ils ont une meilleure situation que lui, va être relativement indifférent aux statistiques qui montrent que les noirs gagnent beaucoup moins encore que les blancs, ou qu'ils sont beaucoup plus souvent incarcérés.
Vous parlez de la situation américaine, là.
Oui, je parle bien entendu. Je parle de la situation américaine. Ensuite, je dirais que les émotions sont à l'œuvre dans ce qu'on appelle la polarisation politique. C'est ce qu'on appelle la polarisation affective. Et dans la polarisation affective, le rival politique devient un ennemi. Ce n'est plus un rival, ce n'est plus quelqu'un qui pense pas comme moi. C'est un ennemi qu'il faut finalement éliminer. Et donc, ça rend beaucoup plus difficile le compromis et le consensus. Et finalement, je vais finir là-dessus. Je dirais que les émotions, donc la colère entre autres, c'est une forme de pensée rapide. Je fais référence là aux grands travaux de Daniel Kahneman qui parlait de pensée lente et de pensée rapide. L'émotion, c'est une forme de pensée très rapide qui escamote les processus cognitifs lents. Donc, c'est pour ça, par exemple, que quand Nixon, en 1968, fait campagne sur la peur de drogue et la peur du crime, ça a été une campagne qui a été très efficace, parce que, sans le dire, en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est que c'était que le crime et les drogues, c'était des mots de code pour noir, pour parler de noir. Mmh, c'était donc une campagne raciste. Donc c'est ça, les émotions.
Mais là, vous parlez surtout de la colère de droite, en quelque sorte, la colère des blancs vis-à-vis des noirs. Mais en fait, quand vous dites que l'indignation est devenue à la fois un ethos politique et une partie intégrante d'une vision morale du monde, ça ne touche pas que les mouvements de droite. Enfin, l'indignation est généralisée aujourd'hui et les identités, les gens se déterminent politiquement à travers leurs identités, qu'elles soient sexuelles, genrées, de droite, de gauche, c'est cette manière qu'on se détermine, cette manière qu'on se construit une forme de morale. Vous dites l'indignation est même devenue un signe de moralité en soi, en quelque sorte.
Oui, bien sûr. Souvenez-vous du petit livre de Stéphane Hessel. Oui.
Indignez-vous.
Indignez-vous. Et je cite, dans le livre Édouard Louis. Qui dit en substance que son identité politique est fondée sur la colère et que avoir lu Bourdieu lui a permis en fait d'être constamment en colère. Mmh. Et donc il y a véritablement une sorte de capital politique qui est fait de la colère. Et c'est ce qui rend aujourd'hui souvent les langages et de droite et de gauche indistinguables.
Oui. Oui, la colère peut servir de mode d'avancement social ou médiatique, en tout cas, au moins médiatique, ce qui rend les choses assez compliquées.
Oui, regardez la dernière couverture du Point. Édouard Philippe est en colère.
Oui.
Et cette couverture est accrocheuse. On a tout de suite envie de savoir qu'est-ce qui le rend en colère. Beaucoup plus que si on nous avait dit que si le titre avait comporté, par exemple, une référence au déficit budgétaire, qui est ce qui, en fait, le met en colère.
Oui, bien sûr. Mais alors, c'est une colère, que je disais tout à l'heure, c'était une colère très différente de celle d'Achille, parce que la colère d'Achille est la colère du viril, du guerrier qui veut venger son honneur. La colère d'aujourd'hui est une colère basée sur l'idée que chacun, dans son identité, est plus ou moins victime de l'identité des autres. Il y a une victimisation généralisée qui alimente la colère. Et de ce point de vue, c'est presque une colère... c'est la méduse qui serait peut-être la bonne image de la colère, plus qu'Achille, si on veut des références mythologiques.
Oui, alors je fais référence aussi dans le livre à un changement intéressant qui s'est produit au sein du Parti républicain. Et un analyste du Parti républicain qui connaît très bien le Parti républicain disait en substance qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on n'aurait jamais pu entendre d'un républicain qu'il était une victime. Et qu'au contraire, le discours républicain consistait à mettre en avant un ethos du contrôle de soi, un ethos un ethos de la force, et il ne fallait surtout pas ressembler à ces petits gauchistes pleurnichards. Or, dit-il, cette terminologie a complètement été liquidée, et ce qui l'a remplacée, c'est une terminologie victimaire.
Oui.
Et donc, c'est...
Même chez Donald Trump, c'est
bizarre. Même, mais absolument. Et absolument. Et en fait, dans beaucoup de discours d'extrême droite, on retrouve cette idée de la victimisation, notamment par les élites. Hein. C'est la fonction que les élites, que ce groupe imaginaire, qui existe d'ailleurs,
qui existe.
C'est exactement ça. C'est l'enjeu, si vous voulez, c'est de créer une colère qui s'appuie sur le sentiment d'être victime. Ça veut dire donc, en fait, que notre discours moral contemporain génère de la colère et vice-versa, la colère s'appuie sur un discours moral. On a beaucoup de mal à faire la distinction entre les deux. C'est toute l'ambiguïté et l'ambivalence de la colère qui s'appuie sur une demande de justice, quel que soit finalement votre camp politique.
Et cet alliage de colère, de déception, de colère et de victimisation va de pair avec un autre de vos chapitres qui est la question de la peur, qui est une émotion très forte. On n'a pas le temps de l'aborder complètement, mais il y a deux, trois choses qu'on peut signaler au début du 21e siècle. Enfin, les attentats du 11 septembre qui ont montré la conséquence de la peur aux États-Unis. Vous dites que les Américains ont glissé dans leur majorité vers la droite de l'échiquier qui est politique à ce moment-là. La même chose a été constatée en avril 2002 en France, hein, où l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle était quand même partiellement une conséquence des attentats du 11 septembre. Mais parmi les peurs que vous signalez, c'est la peur du pouvoir politique, la peur sécuritaire, la peur militaire. Il y en a une sur laquelle je voudrais m'arrêter parce qu'il me semble qu'elle a beaucoup de conséquences sur aujourd'hui. C'est ce que vous appelez la peur pastorale, c'est-à-dire le principe de précaution et les rapports de ce principe de précaution avec la causalité. Au moment de la pandémie, l'État est devenu le garant de la santé et de la longévité des vies. Les médecins, l'industrie pharmaceutique, les biologistes, les journées spécialisées de plusieurs pays ont coopéré et joué un rôle décisif dans la gestion de la pandémie et dans la suspension des libertés publiques dans beaucoup de pays. Et vous dites que cette nouvelle sensibilité investit la peur d'un statut privilégié en l'associant à la prudence, à la rationalité et au calcul des risques, et que en d'autres termes, l'État tenu de rendre des comptes aux citoyens, à l'obligation d'envisager systématiquement le scénario du pire, et que cette obligation a créé ce qu'un essayiste anglais qui s'appelle Frank Furedi, qui est plutôt de droite aujourd'hui, appelle la crise de la causalité. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est contre ça que se sont révoltés, que se sont mis en colère beaucoup d'Américains pendant et après la pandémie. Et c'est la crise des experts et la crise de la causalité sont directement liées à cette emprise de l'État sur les vies.
Oui, alors je dirais que la peur, c'est à mon avis l'émotion maîtresse du jeu politique. Celui qui contrôle la peur contrôle l'arène politique. C'est à mon avis aussi une des raisons pour laquelle Netanyahou est resté au pouvoir aussi longtemps. Quand il se présente comme Monsieur Sécurité, en fait, il se présente comme Monsieur Peur. Donc ça, c'est une première chose. Ça voudrait dire que Hobbes et Machiavel avaient entièrement raison.
Oui.
La peur est centrale à l'arène politique. Pour revenir à la peur pastorale dont vous parliez, alors oui, 5 milliards de gens sont restés chez eux. C'était un événement unique dans l'histoire. Ça ne s'est jamais produit. Et je pense que la peur était quelque chose de très palpable et qui s'est diffusé et répandu partout dans le monde. Et qui a été, finalement, cette peur a été causée par les experts et par l'État qui ne voulait pas prendre le risque de causer une crise dans les hôpitaux et dans les infrastructures médicales. Maintenant, pour revenir encore plus précisément à votre question, je dirais qu'il y a encore quelque chose d'autre qui est en jeu par rapport à la crise de la causalité, c'est que le Parti républicain, depuis à peu près 20-30 ans, a nié la science, en tout cas en ce qui concerne le réchauffement climatique.
Oui.
Et c'est cette stratégie, en fait, qui a été, en quelque sorte, qu'on a imité, quand il s'agissait du vaccin. Parce que si vous êtes de gauche, vous croyez à la vérité scientifique du réchauffement climatique. Si vous êtes de droite, vous n'y croyez pas. Et ce qui s'est passé pour le vaccin du Covid, à partir du moment où le vaccin du Covid a été mis sur le marché, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Alors qu'avant le vaccin, il y avait un peu plus de gens qui mouraient du virus dans les États bleus parce que les États bleus ont une plus forte densité urbaine et la densité urbaine est cause de propagation du virus. Quand le vaccin est apparu, il y a eu une très forte concentration de morts du virus dans les États rouges. Donc en fait, il s'agissait, si vous voulez, c'est une illustration pour moi parfaite de la façon dont la peur est parfaitement manipulée et parfaitement contrôlée par des partis politiques et transformée en position politique, en positionnement politique.
Et vous pensez qu'ils ont, ils s'est contrôlé ou c'est, ou est-ce que les partis politiques, en l'occurrence, ont pris le train en marche? Parce qu'on a l'impression que cette réaction au confinement est venue des réseaux sociaux, elle est venue, pas nécessairement venue des états-majors politiques.
Alors, c'est pas les états-majors politiques, c'est une sensibilité anti-science qui s'est installée. Cette sensibilité fait que, si on est de droite, on ne croit plus aux experts. On pense que les experts ont un pouvoir illégitime.
Vous dites dès lors que l'ordre social moderne se propose d'éliminer la peur. Tout ce qui vient menacer cette paix présumée suscite une peur encore plus grande. L'ordre social moderne se propose d'éliminer la peur. Tout ce qui vient menacer cette paix présumée suscite une peur encore plus grande. C'est ce que vous dites à la fin du livre, enfin à la fin du chapitre.
À la fin du chapitre.
Oui.
Oui. Bah, et alors c'est intéressant parce que vous savez l'idéologie libérale hein, au sens américain du terme, c'est-à-dire la société qui est censée garantir les droits et les libertés, c'est une société qui fondamentalement, comme le disait la grande philosophe politique Judith Sklar. Elle est fondée sur l'absence de peur. Et elle définit précisément le libéralisme comme une doctrine et une pratique politique qui bannit la peur du social. Or, ce dont je fais le constat dans ce chapitre, c'est que la peur est omniprésente. Elle prend des formes différentes, elle se décline de façon différente selon les partis politiques. Et selon les identités sociales, mais elle est omniprésente.
Oui. Elle est omniprésente aussi dans le siècle qui est le nôtre aujourd'hui. Merci Eva Illouz d'avoir été présente aujourd'hui. Je rappelle le titre du livre « Explosive modernité, malaise dans la vie intérieure » aux éditions Gallimard. C'était « Signe des temps », une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Dali Yaha et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.